Du coup, tu as parlé pas mal de termes que je vais te demander de définir un peu. D'abord sur l'adaptation, tu parlais aussi de risque climatique, on en parlera par la suite. Sur l'adaptation, est-ce que tu peux nous redéfinir un peu ce sujet-là? Qu'est-ce que c'est concrètement? Pourquoi est-ce qu'on parle autant d'adaptation en ce moment?
Ouais. Alors, je vais essayer de reformuler, si tu veux, la problématique climat-énergie dans le langage du risque climatique. Un risque climatique, c'est quoi? C'est un impact futur du changement climatique sur un système donné. Un système donné, ça peut être par exemple la ville de Paris, ça peut être une entreprise, ça peut être votre maison, ça peut être votre santé, ça peut être n'importe quoi. Pour analyser ce risque climatique et donc le niveau de risque et le niveau de danger en fait auquel est soumis ce système-là, on a besoin de trois composantes. La première composante, c'est ce qu'on appelle les aléas climatiques. Donc, la définition un peu classique, c'est toujours de rappeler que météo et climat ne sont pas identiques. Et en fait, le climat, c'est un ensemble de composantes météorologiques. C'est à un endroit donné, la température, la vitesse du vent, le niveau d'humidité, etc., etc. Et en fait, tout ça, on peut les appeler, ce sont des aléas climatiques. Ces aléas climatiques, ils vont être affectés par le changement climatique lui-même. Le changement climatique, il va en fait capturer de la chaleur dans l'atmosphère du fait de la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette chaleur va augmenter la température, mais ça ne va pas avoir que cela comme conséquence. Vu qu'on augmente la température, on augmente par exemple l'évaporation des cours d'eau ou de la mer, ce qui fait qu'on augmente dans certaines régions les précipitations. On change aussi le schéma de précipitation, puisque les nuages vont se former à des endroits différents, vont avoir plus de masse, et s'ils vont avoir plus de masse, ils vont pas être poussés au même endroit par les vents, etc. On change également l'évaporation, pas uniquement des cours d'eau, mais aussi des sols, de l'eau qui est contenue, c'est l'eau verte. Et donc, tu augmentes avec le changement climatique aussi, en théorie, en tout cas sur certaines régions, la sécheresse des sols. Et de fait, tout cela va modifier un certain nombre d'aléas climatiques. Donc ça, c'est simplement de la physique du climat. Ensuite, on rentre dans notre analyse de système. Notre système va être exposé ou pas à un aléa climatique donné. L'exposition est une notion géographique. C'est-à-dire que je vais caractériser mon exposition aux vagues de chaleur selon ma localisation géographique. Je ne vais pas avoir une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur équivalent au Groenland et en France. D'accord? Donc ça, on est encore sur une notion qui est liée à la physique atmosphérique. On fait tourner des modèles climatiques pour savoir, eh ben, en 2050, 2070, ou sur une période de 30 ans en général, eh ben, de combien de jours de vagues de chaleur sur une localisation géographique donnée, l'aléa climatique va augmenter. Un aléa climatique, même si c'est plus 100% climatique, mais l'élévation du niveau de la mer aussi. Et la dernière caractéristique qu'on met en cause, c'est la question de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est les caractéristiques intrinsèques de système qui vont faire que le risque va se matérialiser de façon plus ou moins forte. Un exemple de caractéristique de vulnérabilité, par exemple pour la ville de Paris, eh ben c'est par exemple l'âge de la population, c'est-à-dire bah, les populations les plus vulnérables aux effets des vagues de chaleur vont être les populations les plus âgées ou les plus fragiles. Une des populations auxquelles dont on parle jamais dans les vagues de chaleur, c'est les sans-abri. Les sans-abri, c'est extrêmement difficile de subir des vagues de chaleur. C'est encore pire qu'en hiver, souvent, puisque bah tu ne peux pas t'abriter. Et il y a des difficultés aussi d'accéder à l'eau. À Paris, on a pas mal de fontaines publiques, mais dans plein d'autres villes, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès à l'eau ou d'avoir des douches, etc. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, si on replace l'action climatique dedans, on a deux façons de réduire l'impact du changement climatique. La première, et elle est fondamentale, elle doit être première, c'est l'atténuation du changement climatique. Alors ça, bah, je pense que tu en as parlé très largement dans tes podcasts, c'est comment on limite les émissions de gaz à effet de serre, comment on tient les budgets carbone du GIEC, comment on reste sous le 2 degrés. Au pire, parce que, en fait, une fois si tu dépasses le 2 degrés, tu as un certain nombre de points de bascule qu'on ne sait pas situer et qui pourraient déclencher un emballement climatique. C'est la question du permafrost, c'est la question de la circulation thermohaline ou ce genre de choses. Donc, cette question de l'atténuation, en fait, elle va jouer sur les aléas. plus on va réussir à limiter les effets du changement climatique, moins on devra s'adapter à quelque chose de différent de ce qu'on a aujourd'hui. Donc dans ce cadre-là, l'adaptation, elle va jouer sur les aléas. Moi, dans des définitions un petit peu plus opérationnelles, je dis qu'elle joue sur l'exposition parce que je quantifie l'exposition en termes de nombre de jours de vagues de chaleur en plus sur une localisation donnée. Dans le langage des entreprises, on marche un peu plus comme ça parce que c'est plus opérationnel. L'aléa est simplement en fait une donnée, on va analyser les vagues de chaleur sur tel système. L'exposition, ça va être le nombre de jours de vagues de chaleur en plus. Et les vulnérabilités, ça va devenir une catégorie fourre-tout où on donne toutes les caractéristiques de l'entreprise ou du système qui vont exacerber l'effet du risque, comme par exemple l'effet îlot de chaleur urbain. Et de fait, l'adaptation, dans ce cadre-là, elle peut jouer sur deux choses, la vulnérabilité ou l'exposition. L'exposition, ça va être le changement de localisation géographique, d'accord ? C'est assez peu commun sur certains systèmes, et c'est le cas, par exemple, sur l'élévation du niveau de la mer. Et l'adaptation, elle va essayer de limiter la vulnérabilité du système. Elle va essayer, du coup, par exemple, de rafraîchir les îles d'autres façons, en les végétalisant. Elle va essayer de préparer notre tissu urbain à des précipitations plus intenses, à des inondations, en le rendant perméable. C'est la question de la ville éponge, etc. Et donc, l'action climatique, reformulée dans le langage du risque, elle a deux caractéristiques. Elle a une caractéristique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'atténuation. Et une caractéristique d'adaptation à son conséquence, c'est l'adaptation. Et si on articule tout ça et qu'on peut donner un troisième terme, mais on ne va pas essayer de surcharger conceptuellement cet entretien, c'est la résilience. La résilience, pour moi, c'est la conjonction des deux. Notre résilience climatique, c'est s'adapter et atténuer. Un dernier petit élément aussi extrêmement important pour l'adaptation, c'est qu'on n'a pas le choix. Le changement climatique a une caractéristique fondamentale, c'est qu'il est irréversible. Irréversible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si aujourd'hui on arrête tous d'émettre des gaz à effet de serre, eh ben, les conditions de température, d'humidité, etc. de l'année 2022, 2023, 2024 sont en quelque sorte la nouvelle norme. Le changement climatique ne revient pas en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura arrêté nos émissions de gaz à effet de serre, on aura arrêté la dérive, mais on aura arrêté la dérive à... en France, on est déjà à 1,7 degré, à peu près, ou 1,9, je ne sais jamais sur ces données-là, 1,7, disons. Eh bien, on gardera 1,7. On ne va pas faire moins 1,7 dans l'affaire. Après, il y a toutes les solutions, effectivement, que peut-être Pierre a pu développer, de géomimétisme, qui permettent un peu de refroidir en rajoutant de la séquestration carbone, en rajoutant des puits carbone, etc. Mais voilà pour à peu près la reformulation et ce que c'est l'adaptation. Donc elle est nécessaire, on n'a pas le choix. Plus on atténuera, moins on aura à en faire, mais on va forcément devoir en faire. Si on veut un peu un exemple, l'été 2022, en fait, c'est la nouvelle norme. Avec ces conditions de sécheresse, d'humidité ou les inondations du Pas-de-Calais, on va être confronté, même si on arrive à avoir une action climatique complètement bouleversée demain et qu'on tient nos objectifs, on va quand même devoir gérer des inondations plus importantes dans le Pas-de-Calais, des étés avec une ressource en eau qui est raréfiée, et tout ce genre de... Et puis des canicules très importantes en été. Et plus on ira loin, plus ça sera difficile à gérer.